Chaque jeudi, à midi, retrouvez la rédaction de l'hebdomadaire Politis pour une chronique indépendante et engagée sur l'actualité politique et sociale. Retrouvez cette chronique sur le site de JetFM, www.jetfm.asso.fr.
Nous retrouverons maintenant Nadia Sweeney de la rédaction de Politis. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Politis, cette semaine, titre sur sa une, gauche à la reconquête des classes populaires. C'est d'ailleurs l'objet d'un dossier dans les pages de Politis cette semaine. Alors un dossier dont on parlera, la façon dont il a été concocté. En ce qui vous concerne, vous avez rédigé un article de ce dossier qui est intitulé « Pas de quartier » avec un S entre parenthèses. Pour les politiques, alors pour faire référence un peu à la une de Politis, ça fait quand même un moment qu'il y a une rupture entre la gauche et les classes populaires, des classes populaires d'ailleurs qui estiment largement que la gauche les a laissés tomber, voire les a trahis.
Oui, ça fait un moment seulement. Là, maintenant, on est dans une phase de recomposition politique à gauche et donc la question des quartiers populaires, des classes populaires redevient un enjeu majeur pour les mouvements de gauche divers et variés qui doivent retrouver une légitimité. Mais effectivement, cette rupture, elle a été plusieurs fois théorisée et elle a été actée, par exemple, au Parti Socialiste par cette fameuse note de Terra Nova en 2011 qui acte que d'un point de vue électoral, aller vers les classes populaires, ça n'est plus intéressant, qu'il faut se tourner vers les classes moyennes, etc.
Le Terra Nova qui est un think tank très proche du Parti Socialiste.
Exact.
Hein, voilà, un réservoir
qui,
de pensée.
Qui donne un peu le là de la politique et des orientations politiques généralement suivies par le Parti Socialiste. Mmh. Et donc, en 2011, c'est un peu cette espèce de tournant officiel, en fait, même si la rupture, elle est lente, elle est longue et elle n'est pas que du fait du Parti Socialiste. Elle est à mon sens aussi beaucoup du fait de l'échec du Parti communiste, qui était lui, celui qui représentait et qui laissait émerger la classe ouvrière, et qui n'a pas su voir l'évolution de cette classe ouvrière, qui n'est plus la même que celle qui existait en France dans les Trente Glorieuses. Mmh. Donc le PCF, en fait, c'est une espèce de concomitance de choses, le PCF échouant sur sa capacité à représenter de nouveau une classe populaire qui évolue, et qui est diverse et variée, puisqu'on appelle bien les classes populaires, parce qu'on a du mal à les définir, il y a plusieurs réalités, plusieurs choses qui les touchent, et qui des plusieurs thématiques. Et puis il y a à côté de ça effectivement des stratégies politiques qui évoluent et des stratégies beaucoup plus électorales.
Moi j'aurais pris un ancrage. Oui, j'aurais pris un ancrage historique qui aurait été peut-être 1983 où il y a eu vraiment une rupture avec Mauroy qui est débarqué et Fabius qui arrive à Matignon où là il y a vraiment une allégeance au libéralisme. Est-ce que là aussi ça n'a pas été un moment historique où la gauche ou le Parti Socialiste a laissé tomber les classe populaire?
Oui, il y a un tournant, mais la classe populaire, ça dépend de ce qu'on définit comme étant la classe populaire, parce que la classe ouvrière de l'époque, c'était pas tant le Parti Socialiste qui les représentait que le Parti Communiste. Alors le Parti Communiste a effectivement rompu ses liens avec le gouvernement, mais elle a eu des grands loupés dans son histoire, et notamment dans sa volonté d'intégrer le gouvernement. En 81, par exemple, il y a des grandes grèves des ouvriers spécialisés, qui sont les ouvriers d'origine immigrée, principalement, que le Parti Communiste ne va pas soutenir. Mmh. Et donc il y a une forme de rupture avec une partie de la classe ouvrière, qui va se retrouver aujourd'hui. Le Parti communiste a loupé clairement la classe populaire d'origine immigrée.
On se souvient aussi de la campagne de Jospin, et puis d'ailleurs, comment l'histoire s'est terminée, où Jospin a un discours complètement... Il n'a pas de propos pour la classe populaire, et c'est Le Pen, Jean-Marie, hein, qui utilise d'ailleurs, dans une allocation entre les deux tours de 2002, les termes ouvrier, métallo. Là aussi, dans l'utilisation du langage, il y a vraiment un vrai abandon des classes populaires de par le vocabulaire justement qui n'est pas repris par les partis de gauche et qu'on attendait avec cette terminologie-là.
Bien sûr, et je pense que c'est aussi l'abandon de la question de la lutte des classes. Mmh. Ça va de pair avec cet abandon de la réalité de la lutte des classes. On parle plus de lutte des classes depuis des dizaines d'années maintenant. On évoque d'autres, un peu comme Terra Nova l'évoquait dans sa note, en fait. On parle des minorités, donc des femmes, des jeunes, des choses comme ça, moins de la question des classes sociales.
Alors le paradoxe, c'est d'ailleurs indiqué dans un article de ce dossier, un article pour le coup qui a été rédigé par Pauline Groll, autre journaliste de Politis. Et elle nous dit d'ailleurs dans le chapeau, comme on dit, de cet article intitulé « Le nouveau Graal » entre guillemets, hein, de la gauche, que tous les partis de gauche veulent porter la voix des classes populaires. Sauf qu'ils ne sont pas du tout entendus. Hein. Ces classes populaires ne sont pas du tout entendues. Et on a un électorat qui est parti où, justement? Il est parti au FN, chez Mélenchon, ailleurs, cet électorat des classes populaires?
Il y a une partie de l'électorat, il s'est un peu divisé. Il y a une partie de l'électorat qui est effectivement partie au Front National. Une autre qui s'est raccrochée à Mélenchon parce qu'il a fait une campagne concentrée sur leurs thématiques. Il a fait du populisme, donc une forme de populisme, effectivement, ça réanime une forme d'énergie dans les classes populaires. Mais principalement, les classes populaires s'abstiennent. Aujourd'hui, ils sont sortis du débat public.
Disons, ceux qui vont vers le Front National, ce sont quoi? Ce sont les classes populaires non issues de l'immigration? On peut faire un distinguo de ce point de vue-là?
C'est peut-être un peu grossier de le distinguer de cette manière-là. Moi, c'est vrai que j'ai peut-être tendance à grossièrement le définir de cette manière-là, à me dire que cette classe ouvrière non issue de l'immigration et soit rester assez fidèle au Parti communiste, soit s'est tourné vers le Front National, et que la grande partie de l'immigration s'est tournée vers l'abstention.
Donc le parti de l'abstention, qui est un parti qui est très puissant, quand on a vu un peu dans aux dernières présidentielles et les législatives qui ont suivi.
Surtout
les législatives. À Saint-Herblain, où nous sommes, on en parlait justement pour préparer cette chronique, Nadia, 75% d'abstention dans les quartiers populaires comme Bellevue, où est situé Jet FM, et on monte à plus de 80% dans certains autres quartiers en France. Vous êtes d'accord avec ces pourcentages complètement abyssaux?
D'accord, si les chiffres le disent, mais oui, c'est hallucinant. C'est surtout que du coup, ça évoque bien la crise politique et démocratique dans laquelle on est.
Alors,
on ne peut pas fonctionner avec un gouvernement légitime avec autant d'abstention.
C'est ça. Donc, il est légalement élu, mais la légitimité politique, c'est autre chose, bien sûr. On est loin du compte. Il y a quelqu'un qui s'appelle François Ruffin, évidemment, que vous connaissez bien, qui réussit peut-être la reconquête de la classe populaire. On a vu qu'il a été élu dans le nord de la France, en Picardie, contre le Front National. Pourquoi Ruffin, justement, il a réussi là où d'autres membres de la gauche, j'allais dire, ont échoué?
Parce que Ruffin met en place la stratégie populiste de la France insoumise, qu'il assume tout à fait d'ailleurs. Donc il essaye d'aller au plus près des réalités des gens, basiquement, et de défendre leurs combats locaux. C'est ce qu'on appelle classiquement la méthode Alinsky, en fait, qui est très, très, très étudiée en ce moment au sein de la France insoumise. Qui est de se greffer sur les colères locales et très très concrètes en fait des gens, et ainsi de leur redonner une forme de conscience de leur force.
C'est la méthode Alinsky, c'est ça?
C'est une méthode, oui, c'est une méthode qui émane des États-Unis, qui a déjà révolutionné les mouvements civiques aux États-Unis en 1930, comme eux, ils ont 80 ans d'avance sur nous. Et c'est une méthode qui est beaucoup discutée en ce moment au sein de la France insoumise et à gauche. Cela dit, il faudrait quand même juste parler des limites de cette méthode, et en tout cas de la méthode de Ruffin. C'est que le problème, c'est souvent qu'en fait, il reste dans une logique où la classe moyenne va représenter la classe populaire. Et je pense que les limites, en fait, de cette reconquête, c'est qu'il n'y a pas, pour le moment, en tout cas, d'espace réel pour laisser émerger les énergies qui émanent réellement du local. Ruffin tel qu'un autre, Ruffin n'est pas issu de la classe populaire, après, avec tout le respect que j'ai pour lui. Il a beaucoup de il aime beaucoup, il a beaucoup de respect et d'intérêt pour la classe ouvrière, mais il n'en est pas lui-même issu.
Mais est-ce que ça doit être une condition sine qua non, justement, pour parler au nom de la classe ouvrière, d'en être forcément issu ? Jaurès a parlé au nom de la jeunesse, il était plus vieux, il a parlé de la classe ouvrière sans être pour, fils de prolo. Est-ce que c'est vraiment un passeport indispensable ?
Ça fait partie, c'est pas forcément une condition sine qua non, mais on ne peut pas avoir un mouvement comme ça issu des classes... disons, représentatives des classes populaires, s'il n'y a pas des personnalités qui en sont issues.
Mmh. Et
du moins des voix qui viennent de ces quartiers, sinon il y a rupture. Sinon il y a forcément, à un moment donné, une parole qui n'émane pas directement de la réalité de ces quartiers. C'est ce que disent beaucoup les quartiers, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'un désert politique, alors qu'en fait, les quartiers sont pleins d'associations, sont pleins d'énergie, de mobilisation... qui ne sortent pas forcément du quartier ou des maisons, etc., enfin des maisons, des immeubles, etc. Mais le désert politique, ça n'est pas un désert citoyen. C'est un désert d'écoute politique. La rupture, elle est dans ce sens-là, en fait.
On est toujours avec Nadia Sweeney, journaliste à Politis. C'est la chronique hebdomadaire de l'actualité politique et sociale avec l'hebdomadaire Politis qui sort chaque jeudi. Nous conversons, Nadia, vous et moi, à propos de la gauche. À la peine, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la reconquête des classes populaires. Il y a tout un dossier qui est concocté par Politis cette semaine et vous avez plus particulièrement rédigé un article intitulé « Pas de quartier pour les politiques ». Vous êtes allé du côté de Gonesse, d'ailleurs, voir cette rupture, finalement, avec les classes populaires. Qu'est-ce que vous y avez vu, Nadia, à Gonesse, cette rupture en vrai ? Oui, c'est ça ?
Des gens qui sont assez... qui font face à des institutions contre lesquelles ils ne savent pas comment... Enfin, en tout cas, ils réfléchissent à s'organiser... qui sont par exemple des problèmes avec les bailleurs sociaux. Les locataires de HLM ont beaucoup de problèmes avec les bailleurs sociaux et ils ont beaucoup de mal à se faire entendre. Et ils considèrent que les politiques ne prennent pas leur défense alors que ça devrait être leur rôle vis-à-vis de ces institutions que sont les bailleurs sociaux par exemple, mais qui pourraient être autre chose, hein. Et du coup, il y a une réelle volonté de trouver des moyens de combattre, de s'organiser pour des problèmes encore une fois, vraiment très concrets. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de... Les gens sont désabusés vis-à-vis de la politique et commencent à avoir des discours du type « on n'a pas besoin d'eux pour s'organiser, on n'a pas besoin d'eux pour changer notre quotidien ».
Ils disent d'ailleurs très précisément, je vous cite, vous citez justement quelqu'un que vous avez rencontré dans votre reportage, « on ne veut pas d'élite éclairée pour guider qui que ce soit ». Ça rappelle un peu le rejet à ce qui s'est passé aux États-Unis. Comparaison n'est pas raison, mais le rejet de l'establishment politique. Il y a ça aussi en France, évidemment, ce rejet de cette classe politique dans son tout, alors que dans un quartier populaire, il y a un député ou une députée de référence qui doit être le porte-voix, justement, des problèmes.
Oui, qui pourrait être un porte-voix, mais c'est surtout l'élite éclairée, c'est la question de... c'est une impression qu'on va venir de l'extérieur vous expliquer comment on fait de la démocratie, alors qu'en fait, ça fait 30 ans, plus que ça, qu'il y a des gens qui se mobilisent dans ces quartiers-là. C'est difficile, et ça, on a vu ça avec les limites de Nuit Debout, par exemple, où on ne peut pas arriver dans ces quartiers à dire aux gens « mais attendez, nous, on va vous expliquer comment faire de l'horizontalité, comment faire de la démocratie, etc. etc. » Ça ne fonctionne pas, ça. Il faut laisser ces énergies et il faut travailler à communiquer avec ces énergies qui émanent directement de ces quartiers-là.
Alors,
c'est ça que c'est cette différence, mais c'est ténu comme frontière, mais c'est important de les laisser l'espace d'expression qu'ils méritent.
Et puis, vous le disiez, dans les quartiers, on en sait quelque chose ici à JTFM. Encore une fois, nous sommes dans le quartier de Bellevue, un quartier très populaire, un des trois quartiers populaires, comme on dit, de l'agglomération nantaise. Il y a un tissu associatif très, très fort. Il s'y passe des choses très, très positives. Et là, il y a vraiment une expression, d'ailleurs, populaire, de par ces activités, ces initiatives nombreuses. Alors, ma dernière question, c'est... vous avez commencé à y répondre, Nadia, c'est ce qu'il faudrait faire pour que les classes populaires, finalement, puissent reconnecter avec les classes politiques. C'est permettre, justement, l'émergence de prise de parole, d'initiative, de par les classes populaires, dans les quartiers, notamment.
Oui, et je pense qu'il faut aussi accepter le fait de se laisser bousculer par ces classes populaires. il faut ne pas, enfin, à mon sens, après, c'est pas toujours agréable et je sais bien que les politiques ont beaucoup de mal à se faire bousculer sur leur tronçon idéologique. Mais je pense qu'il faut accepter une certaine conflictualité. Il faut accepter des discours qui ne nous plaisent pas. Il faut accepter des combats et des choses qui ne sont pas forcément les priorités qu'on avait prévues. Et je pense qu'il faut juste simplement être un peu plus à l'écoute de ce qui est dit déjà, parce qu'il y a énormément de choses qui se font, qui se disent, des voix qui émergent de ces classes-là, et il n'y a pas d'écho. Il y a peu d'écho, enfin, à mon sens, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'écho. Je pense que la gauche a tout intérêt à se taire un peu, en fait, et à écouter.
La classe populaire, c'est une exception très large. Il est question d'ailleurs dans ce dossier des coursiers de Deliveroo. Là, on a affaire à une précarisation évidemment de l'emploi, une baisse notable de la qualité de l'emploi. Et ils font partie de la classe populaire finalement, ces travailleurs qui sont complètement asservis par un système qui les exploite. Cette classe populaire qui s'assimile en quelque sorte à la classe ouvrière, elle n'a pas fini de grandir, de s'accroître.
Sur les Deliveroo, c'est surtout dans un milieu très urbain, et c'est à mon sens, parce qu'il me semblait que le profil des livreurs Deliveroo, c'était aussi beaucoup des étudiants, beaucoup une classe moyenne qui se déclasse en fait. Et effectivement, avec cette peur du déclassement, avec cette réalité du déclassement, avec cette paupérisation, la classe populaire se diversifie d'autant plus qu'elle est déjà très diverse. Et il y a des organisations, il y a des associations, des livres, si on en parle, c'est aussi parce qu'il y a des syndicats qui se créent, parce qu'il y a des combats qui se mènent sur la question du travail, et sur la pénibilité, et sur toutes ces questions-là. Donc ça existe. Je dirais, la gauche ne va pas, à mon sens, faire les combats à la place des autres. Il ne faut pas qu'elles viennent comme ça, en fait. C'est mon avis.
Bien sûr. Juste dernière chose, évidemment, c'est s'il y a rupture entre les classes populaires et le Parti Socialiste, vous avez expliqué pourquoi, et le Parti Communiste, vous avez expliqué pourquoi, et la France Insoumise, vous avez expliqué pourquoi. Les classes populaires, elles ne sont plus représentées politiquement?
Ben non.
Elles ne le sont pas. Il y a des partis...
Il y a des partis, ça se voit surtout au niveau local, en fait, aux élections locales, aux élections municipales notamment, où on a beaucoup de listes citoyennes, de candidats sans étiquette qui essayent d'émerger. C'est encore très localisé. Mais effectivement, il y a peu d'émergence nationale, en fait, de ces courants-là. À part sur des thématiques comme les violences policières, par exemple, où on peut voir des associations très mobilisées parce que c'est très médiatisé. Mais sinon, on va quand même moins voir ces associations ou ces politiques sur des questions comme le droit du travail, comme le chômage, comme d'autres questions beaucoup plus liées au quotidien, à des questions nationales, quoi.
Je pense à un parti politique qui est très très peu connu et pourtant qui est très lié aux classes populaires. C'est Parti ouvrier indépendant, ou alors ce qui a émané d'un schisme d'ailleurs avec le POI, c'est le POID comme démocratique. Là, on a une connexion très forte, doctrinairement parlant, politiquement parlant, avec les classes populaires. Mais
ça représente quoi politiquement ?
Oui, c'est vrai, politiquement c'est faible. Mais là, il y a un lien très fort évidemment avec la classe ouvrière et les classes populaires. Nadia, merci de votre contribution à ce moment de radio. Politis cette semaine propose un entretien fort intéressant de Yanis Varoufakis suite à un livre qu'il vient d'écrire sur son expérience justement dans le gouvernement grec. Donc c'est Olivier Doubre qui a recueilli ses propos. Il y a également des choses concernant General Electric, un trésor livré aux spéculateurs, un fiasco industriel, ça c'est le sous-titre. Et puis des enquêtes qui ont trait à la pollution du côté de Montreuil également, des choses qui ont trait à la culture. Et puis ce dossier, la gauche à la reconquête des classes populaires, qui était l'objet de notre discussion, Nadia. Et puis Politis, ce n'est pas qu'une parution papier, c'est un site internet aussi, Nadia.
Oui, qui est d'ailleurs alimentée régulièrement par des articles souvent gratuits qui viennent donner un regard, le regard de Politis sur l'actualité, plus chaude que ce qu'on peut avoir en termes d'hebdo.
Voilà, et puis je reviens à Politis version papier, je renvoie à l'édito hein, de Denis Seyfert, le directeur de Politis, la jalousie des pauvres. Il fait référence d'ailleurs, en termes un peu secs d'ailleurs, à l'intervention d'Emmanuel Macron dimanche dernier. Je le cite, hein, Denis Seyfert nous dit, à l'en croire, il parle de Macron, le smicard aurait tendance à regarder dans l'assiette de Bernard Arnault et le syndicalisme ne serait qu'un fâcheux trait de caractère. Et il poursuit, près d'un siècle et demi après la chute de l'Empire et l'avènement de la République, la pensée anté-révolutionnaire est toujours vivace au plus haut sommet de l'État. Et je referme les guillemets. Il y a un peu de Bonaparte chez Macron, c'est ce que nous dit Denis Seyfert en substance dans son édito. Il nous dit aussi, Denis Seyfert, Nadia, que c'est le bon moment pour aider Politis parce que c'est un journal réellement indépendant et ils sont rares, ces journaux indépendants.
Ah bah oui, ils sont rares, mais ils existent. Il y a quand même une presse, malgré le fait qu'on généralise beaucoup les médias en disant ils racontent des bêtises, ils sont tous dépendants de grands groupes. Et non, il y a quand même quelques titres, dont Politis, qui sont totalement indépendants.
Qui appartiennent à leurs lecteurs, et ça c'est important.
Exactement.
Voilà, donc alors, vous pouvez taper Politis sur un moteur de recherche et vous trouverez très facilement comment vous abonner via l'association Presse et Pluralisme, justement, qui vous pourrez aider à la presse indépendante. Vous abonner, c'est le meilleur moyen d'ailleurs, voire faire un don, hein, défiscaliser au moins 66% pour les particuliers, je crois. Voilà. Merci beaucoup, Nadia. Le bonjour de l'équipe de Jet à l'équipe de Politis. Merci beaucoup. Et puis, c'est rappelé aussi, tiens, dans Politis, c'est le film de Mariana Otero, L'Assemblée, vous avez fait référence à Nuit debout. Eh bien, voilà un film qui nous raconte l'histoire de cette mobilisation il y a quelques mois de Nuit debout qui a duré des semaines. Voilà, c'est sorti d'ailleurs le 18 octobre, très récemment, sur les écrans. Un film de Mariana Otero, L'Assemblée.
Chaque jeudi, à midi, retrouvez la rédaction de l'hebdomadaire Politis pour une chronique indépendante et engagée sur l'actualité politique et sociale. Retrouvez cette chronique sur le site de JetFM, www.jetfm.asso.fr.